Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde « Rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données » organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance. Leçon 3. Je veux que tu me donnes ma chance. Après un début de carrière marqué par des expériences enrichissantes à Interpol et à la CMA-CGM, Christelle décide de franchir un nouveau cap en s'installant sur une base militaire aux États-Unis avec son mari.
Avant de partir aux États-Unis, il y avait la question de savoir ce que j'allais faire là-bas, puisque c'était un an de congé sabbatique. Et il faut savoir qu'en tant qu'épouse de militaire, on a un visa diplomatique et on ne peut pas travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des règles. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, ben, tant pis, je vais reprendre mes études, je vais passer à MBA. Sauf qu'avec le visa diplomatique, on ne peut pas non plus rentrer dans une université classique aux États-Unis. Et la seule opportunité que j'avais, c'était de passer un diplôme en ligne. C'était vraiment les débuts des diplômes en ligne. Et je me suis rapprochée du coup d'une université qui s'appelle NYIT, New York Institute of Technology, qui offrait un programme, un executive MBA, qui normalement devait, on pouvait le passer en 2 ans. Mais en fait, on avait le choix de passer autant de modules qu'on voulait sur le temps qu'on voulait. Donc ils m'ont acceptée comme étudiante au NYIT. Et c'est là que j'ai découvert les joies du travail en ligne. Zoom, Teams, qui n'existaient pas à l'époque, mais on avait des salles de classe virtuelles, puisqu'on avait des étudiants partout dans le monde. Je recevais mes livres une fois par trimestre ou une fois par mois sur toutes les matières, et on avait des devoirs à rendre, donc c'était très drôle. Et j'ai beaucoup travaillé de chez moi pendant cette année-là, mais c'était une formidable opportunité. Donc là, c'était vraiment une contrainte professionnel de ne pas avoir un trou entre guillemets dans le CV et d'en faire de faire quelque chose de très positif. Et je voulais absolument, ça faisait quelque temps que j'avais l'idée de faire un MBA pour vraiment mieux comprendre le business, parce que en tant que juriste d'entreprise, j'avais envie de comprendre comment l'entreprise fonctionnait, pour comprendre telle décision, quels étaient les indicateurs qui faisaient qu'on prenait telle décision. Et donc là, j'ai fait des cours sur le marketing, la finance, un certain nombre d'éléments qui m'ont permis de mieux comprendre le monde de l'entreprise côté business. Et ça a été extrêmement formateur.
Après avoir exploré divers horizons professionnels, Christelle se voit offrir en 2013 une opportunité inattendue de rejoindre le secteur de la santé. Bien que ce tournant puisse sembler fortuit à première vue, elle réalise rapidement que son parcours de vie l'a de manière subtile prédestinée à embrasser cette voie.
Quand je suis rentrée chez B. Braun, donc c'est la première fois que je rentrais dans le monde de la santé, j'ai eu le sentiment que c'était un hasard. Et en fait, mon parcours personnel et familial me font dire qu'il n'y a pas de hasard. J'étais pas amenée à travailler dans la santé, mais c'est un secteur qui me touche particulièrement. Pourquoi ce secteur me touche particulièrement? Parce que j'ai malheureusement eu affaire au monde de la santé pour des mauvaises raisons. Donc, dès la fin de mes études, j'ai perdu mon papa d'un cancer. Donc, ça a été un choc à 27 ans. On est encore un bébé. Et c'est jamais une bonne façon de perdre ses parents. Il n'y en a pas de bonne, mais c'était particulièrement intense et dramatique, avec une année très difficile à suivre l'évolution de la maladie, même si moi j'étais loin, mais c'était d'autant plus dur parce que j'étais loin. J'étais à l'époque, je vivais dans le sud de la France, et mon père, mes parents étaient à Rueil-Malmaison. Mais ça a été, du fait que j'étais très attachée à mon père, ça a été très dur. Ça a été très très dur, et je l'ai vu vraiment, vraiment souffrir. Donc ça a été le premier événement. Le deuxième événement, c'est que on saute quelques années, on arrive. J'ai perdu mon père en 2002 et après des choses positives arrivent. Je me marie, je m'installe avec mon mari, tout va bien. Je tombe enceinte. normal. Et là, en 2009, j'étais enceinte de 7 mois et demi. Je me sentais pas bien, j'arrivais pas à manger depuis 3 jours, etc. J'appelle mon médecin généraliste, j'appelle un certain nombre de professionnels de santé qui me disent « Non, mais c'est des symptômes, c'est rien, c'est, voilà, t'es enceinte, c'est des choses qui arrivent, t'es pas très bien, t'es barbouillée, bon voilà. » Et j'appelle la sage-femme qui était censée me suivre, parce qu'il faut juste avoir en tête que moi, je voulais absolument un accouchement le plus naturel possible. Donc j'étais suivie par une sage-femme qui était très en appui de ce que je voulais faire, qui était très supportif, comme on dit maintenant, et qui me dit « Non, mais là, si vous avez le moindre truc, faut pas réfléchir, aller aux urgences. » Donc je suis allée aux urgences, ça faisait 3 jours que j'arrivais pas à manger, bref. Au début, je me fais examiner. Le médecin me dit, de toute façon, si vous ne mangez pas, c'est pas bien grave parce que vous avez pris trop de poids. Bravo. Mais les infirmières, elles, me disent, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, on va faire des examens, il y a des choses qui... La tension, tout ça, ça ne va pas. Donc ça, je suis rentrée aux urgences, il devait être 13h30. Donc là, je fais toute une batterie d'examens. Donc après avoir eu le retour, vous rentrez à la maison, vous rentrez pas à la maison, bref, à 18h, non, ouais, c'était plutôt vers 16h30, ils me disent « Non, mais finalement, vous allez rester. Vous allez rester pour la nuit, pour observation. » Donc, très bien, donc je préviens mon mari. On me trouve une chambre avec une autre femme, pas de souci. Et puis, il devait être 19h30, quelque chose comme ça. Je vois le médecin qui rentre avec toute une équipe d'infirmières. Il commence à fermer les rideaux et ils disent « Bon, on va vous opérer dans une heure, on va sortir le bébé. » Là, j'éclate en sanglots. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils me disent, sans m'expliquer, ils me disent « Vous faites un HELLP syndrome. » Et je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Bon, moi, je réfléchis pas trop, hein. On m'emmène au bloc, on sort le bébé, tout va bien. Bon, j'étais endormie, hein. J'ai pas eu de vrai accouchement. Je pense que toutes les femmes qui m'écoutent et qui ont eu ce genre d'expérience savent qu'on n'a pas une vraie naissance à ce moment-là. Et je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Et en fait, c'est uniquement en faisant le suivi après la sortie de l'hôpital que je rencontre, enfin, je vois un néphrologue parce qu'on m'explique que mes reins, mon foie ne fonctionnaient plus. Qu'il y avait ma tension qui était très haute, donc ça s'est remis à fonctionner après la sortie du bébé. Et là, lui, il m'explique. Il me dit « Vous êtes une survivante. En fait, vous auriez dû mourir. » Et là, je lui dis « Waouh !» J'en suis encore émue. Et ça a été un événement très marquant, très très marquant dans mon parcours, évidemment, qui me dit « Voilà, franchement, le contact avec le monde de la santé, c'est un peu brutal. » Et le troisième événement qui s'est passé, ça a été en 2012, où j'ai perdu ma mère, quasiment 10 ans, jour pour jour, après avoir perdu mon père d'un cancer. Donc ces trois éléments font que j'ai connu, et en tant que patiente, et en tant que parente, le monde de la santé, les hôpitaux, dans des conditions dramatiques. Et c'est quelque chose qui, évidemment, qui marque. Trois événements très, très brutaux qui marquent. Et quand j'ai eu l'opportunité de rentrer chez mes Brown, ça ne m'a pas frappé tout de suite, mais finalement, ça a fait sens. Alors, mes débuts chez mes Brown, donc je suis rentrée... si je me souviens bien, le 13 mars 2013, il neigeait à Boulogne-Billancourt, je m'en rappelle, je suis venue le premier jour en après-ski. Et je suis rentrée vraiment comme directeur juridique et avec un néologisme anglais, compliance officer pour le groupe en France. Et ça a été des débuts assez... très sympathique. J'étais la plus jeune du COMEX. Hein. Je suis rentrée, j'avais 38 ans, dans un monde où il y avait quand même pas mal de gens qui étaient assez expérimentés, on va dire, avec des femmes déjà. Donc ça, c'était déjà un point très positif. Et avec un patron qui était très très protecteur, dans le sens où il prenait beaucoup de décisions sur beaucoup de sujets, y compris le juridique. Mais finalement, ça a été très formateur pour moi, parce que ça m'a permis de rester un petit peu en arrière, un petit peu invisible, et d'apprendre beaucoup sur l'entreprise pendant ce temps-là, parce qu'il me donnait beaucoup d'informations. Donc c'était très, très formateur. Et au bout d'un an, on a changé de président. Et là, ce nouveau président qui venait d'Allemagne avait besoin de comprendre le monde de l'entreprise en France, les règles, etc. Donc j'ai eu un rôle particulier dans sa prise de poste. Donc c'est moi qui lui expliquais un petit peu les différentes sociétés, les différentes formes de sociétés, les responsabilités, les obligations qu'il avait en tant que président d'une SAS en France. Et je l'ai accompagné dans la partie gouvernance de l'entreprise, puisqu'il a refait la gouvernance. Et très, très rapidement, il m'a intégré dans... Parce qu'il y a plusieurs sociétés du groupe en France, donc très rapidement, il m'a intégré dans les boards des différentes sociétés en France et également d'une filiale en Irlande où j'ai travaillé sur des modèles de gouvernance avec lui. Et tout s'est accéléré, en fait. Donc ça, dès 2015, j'ai commencé à travailler avec une casquette de moins en moins juridique et de plus en plus direction générale. Et en 2017, on s'est retrouvé sur la filiale qui s'occupe de la dialyse en difficulté, puisque on n'arrivait pas à stabiliser la direction. C'est-à-dire, on avait eu un directeur général, et puis un deuxième, et puis un troisième. Donc, on n'arrivait pas à garder le management. Et à ce moment-là, mon patron me dit « Christelle, est-ce que tu peux prendre l'intérim, le temps qu'on trouve ? Parce que là, c'est compliqué, etc. » Moi, je lui dis « J'ai réfléchi. » Je suis revenue vers lui le lendemain, je lui ai dit « Écoute, je veux bien prendre le poste, mais ce ne sera pas de l'intérim. Donc, je veux que tu me donnes ma chance. » Et du coup, il a été un peu surpris, mais plutôt, ça, je pense que ça lui a fait plaisir que je veuille prendre des risques. Et on a été voir en Allemagne la maison mère. Et en fait, ça leur a plu aussi. Donc, ils m'ont donné ma chance. Et je suis devenue à ce moment-là directeur des opérations de la société, donc qui couvre à l'époque 16 établissements de dialyse, 400 collaborateurs. On traitait 1100 patients, entre 1000 et 1100 patients chaque jour, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'était quand même... Enfin, je passais de directeur juridique, j'avais 3 personnes sous ma responsabilité, ou 4, à directeur des opérations avec 400 personnes sous ma responsabilité, des professionnels de santé, une responsabilité très importante, puisque voilà, on avait quand même la santé des patients entre nos mains, hein, établissement de soins. Mais moi, ça ne m'a pas fait peur, j'ai vraiment voulu le faire. Et finalement, au bout d'un an, visiblement, ils étaient contents puisqu'ils m'ont donné, ils m'ont promu avec un rôle de directeur général de cette entité, donc de directeur des opérations à directeur général. Ça, c'était en 2018. Entre-temps, j'avais toujours la casquette directeur juridique, hein, faut l'avoir en tête. Entre-temps, il y a une personne qui part à la retraite, qui avait en charge un certain nombre d'activités, dont une toute petite filiale qui s'occupait de livrer les produits directement chez le patient. Donc là, j'ai récupéré la direction générale également de cette activité. Et ça, c'était 2018. 2019, fin 2019, le groupe me demande de reprendre en plus la responsabilité de la division produits de dialyse, puisqu'ils étaient contents visiblement de ce que je faisais sur la partie centre de dialyse. Et début 2020, là, coup de tonnerre, mon patron est rappelé en Allemagne, donc le poste s'ouvre. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est maintenant ou jamais, quoi. Le pire qui puisse m'arriver, c'est qu'on me dise non. Donc, j'ai postulé. J'ai postulé pour devenir présidente de Bebron en France. Je me suis retrouvée face à d'autres personnes du groupe. Et c'était en février 2020, donc il y avait le Covid qui commençait à arriver. Et en mars, c'était au tout début du confinement, je reçois un appel d'un membre du board et me dit « Christelle, c'est toi qu'on a choisi. »
À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Medcheck Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.